Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te demandons de nous conduire maintenant dans ta parole et de nous donner des cœurs attentifs et des esprits soumis à ta parole et que ton esprit applique pleinement ta parole dans nos vies pour la gloire de ton nom. Amen. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez eu une belle journée jeudi. Vous n'avez pas travaillé, hein? Pour pas mal d'entre vous, en tout cas les scolaires, peut-être pas, peut-être quelques personnes qui ne sont pas sous le régime français, mais je crois que vous avez eu un bon temps de vacances. Il faisait beau en plus. En ce jeudi qu'on appelle le jeudi de l'Ascension. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot. Hein. Je ne sais même pas si on vous demandait de le définir, ce que vous diriez. Les jeunes qui ont cela, qui ont fait le pont depuis jeudi jusqu'à aujourd'hui, grâce à ce jeudi de l'Ascension, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Peut-être vous vous demandez, est-ce que c'est une fête païenne? Est-ce que c'est une fête religieuse? Et ça ressemble au mot « assomption », hein, qui n'est pas la même chose. L'ascension et l'assomption sont deux choses différentes. Mais la semaine dernière, il y a un frère qui a parlé avec moi au portail, et puis il me dit, j'ai parlé avec des collègues de travail qui sont catholiques, et ils m'ont dit, mais vous les évangéliques, vous fêtez la naissance de Jésus et puis sa résurrection. Mais vous ne fêtez pas son ascension. Donc, vous voyez, déjà, l'ascension, c'est quelque chose qui concerne Jésus-Christ. Hein. Et puis, je me suis dit, c'est vrai, quand même. C'est vrai. Et je me suis rendu compte que je n'ai jamais prêché même sur l'ascension et que c'est un événement de la vie de Jésus que l'on n'aborde pas souvent. Pourtant, la Bible en parle. Jésus en a parlé plusieurs fois avant son départ. Donc l'ascension, c'est quand Jésus quitte la terre et qu'il s'en va au ciel, hein, pour ceux qui ne savent pas et puis qui peut-être ont envie de chercher de leur téléphone la définition. Mais la Bible en parle. Et à la fin de l'évangile de Marc, nous trouvons ceci. Il dit, le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et puis en Luc 24, 50 et 51, nous lisons, Jésus les conduit, ses disciples, les conduit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. C'est un événement qui concerne Christ. Et c'est même le dernier événement physique marquant jusqu'à présent, hein, si on ne pense pas à son retour, mais qui concerne Jésus-Christ. Et dans le livre des Actes, bien sûr, les premiers versets aussi, hein, qui est aussi le même auteur, Luc, traite de l'ascension de Jésus-Christ. Donc c'est une chose qui est enracinée dans l'Écriture, hein, dans le psaume 110. Quand on lit ce psaume, il est repris à la fois un peu par Paul dans Éphésiens et puis surtout par Pierre dans son sermon en Acte 2 sur la montagne où il prend ce texte et puis il fait un lien avec l'ascension de Jésus-Christ. Hein, quand il dit « Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption » et il dit « Chers frères, eh bien, qu'il me soit permis de vous dire que David, il est mort et que David n'est pas monté au ciel. Hein? » Mais Jésus, lui, il l'est. Et il termine en disant « Que tout Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié ici. » Et son importance, l'ascension de Jésus a été très importante aussi pour l'Église du premier siècle. On trouve dans le credo, dans le symbole, symbole des apôtres, ou le symbole même de Nicée-Constantinople en 381, donc c'est très tôt dans l'histoire. Ceci, il dit, nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, toutes et de toutes choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père, avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non créé, d'une même substance que le Père, et par qui tout a été fait, qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu des cieux, s'est incarné par le Saint-Esprit dans la Vierge Marie et a été fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il a souffert et il a été enseveli. Il est ressuscité des morts le troisième jour d'après les Écritures. Et puis ils disent, il est monté aux cieux et il s'est assis à la droite du Père. De là, il reviendra avec gloire pour juger les vivants et les morts. Son règne n'aura point de fin. On va, vous voyez, jusqu'au bout, on pourrait dire du bout, hein, de l'histoire ici de la rédemption. On peut avoir la tentation de s'arrêter à Christ est mort, il est ressuscité. Mais la Bible va plus loin que ça. Elle dit qu'il est monté au ciel, qu'il s'est assis à la droite de Dieu, et puis qu'un jour il reviendra pour juger les vivants et les morts. Donc je vous propose, sous la poussée de ce frère la semaine dernière, de regarder un peu quelques textes qui traitent donc de l'ascension. Et je vous propose de regarder donc Actes chapitre 1, et peut-être que vous avez fêté jeudi sans même avoir une pensée pour cet aspect du ministère de Jésus-Christ, mais nous voulons non pas réparer la faute, mais peut-être considérer un peu plus cela aujourd'hui. Actes chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 1. C'est Luc, l'auteur de l'évangile de Luc, qui écrit, qui est aussi l'auteur des Actes des Apôtres. Écoutons donc la parole de Dieu. « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. » C'est ça, tout ce qu'il a commencé dans l'évangile de Luc. « Après avoir, il dit qu'il est monté au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus que vous avez, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Verset 12, « Alors ils retournèrent à Jérusalem et de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à une distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Voilà donc jusque-là notre lecture. Donc nous voulons un peu, donc prendre un peu de temps pour méditer ces choses, voir dans un premier temps la nature de l'ascension de Christ. On va remarquer que c'est une ascension corporelle. La Bible ne dit pas que Jésus s'est volatilisé, qu'il s'est désintégré. On pourrait se demander pourquoi est-ce que il n'a pas disparu, un peu comme il me semble Philippe avait disparu de devant l'Éthiopien. Et là, on a l'impression que c'était quelque chose de subit et de brutal. Ici, ça n'est pas le cas. Après sa résurrection, Jésus reste 40 jours sur la terre. On pourrait se poser la question aussi, pourquoi est-ce qu'il n'est pas parti tout de suite après la résurrection? Et Luc dit ici, dans le passage que nous avons lu, si vous regardez, il dit qu'il a... verset 2, il dit « Jusqu'au jour où il fut enlevé, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna une preuve pendant 40 jours. » Donc il dit ici qu'il leur apparaît pendant 40 jours pour leur donner une preuve, preuve probablement de sa résurrection. C'est un temps pendant lequel Jésus va faire croix avec ses disciples. Il va manger et il va boire, ils vont avoir de l'interaction, on pourrait dire, physique, ils vont pouvoir le toucher, il a dit « touchez-moi », à un moment donné, quand il entre, juste après la résurrection, dans la chambre haute, vous vous rappelez, les disciples étaient là, ils le voient, et ils ont cru voir un esprit, je sais pas comment c'est possible, un esprit, ça n'a pas de corps, mais ils ont cru voir un esprit. Donc, ils ont cru voir quelque chose qui, c'est pour vous montrer comment, quand on n'est pas dans son état, comment on arrive à voir des choses qui ne sont pas visibles. Et Jésus leur dit, mais non, il dit, un esprit n'a ni chair ni os, comme j'ai. Il dit, regardez, touchez-moi. Et puis, après, comme ils ne croyaient toujours pas, la Bible dit dans leur joie, eh bien, Jésus dit, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Et puis, ils lui ont donné à manger, et puis il a mangé devant eux, pour attester véritablement de cette résurrection corporelle. C'est ce que Luc dit ici. Mais il dit aussi que pendant ce temps-là, il les a enseignés, qu'il leur a donné des ordres, qu'il s'est entretenu avec eux concernant, regardez le verset 3, à la fin, il dit, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Les disciples avaient besoin encore d'être enseignés. Tout ce qui s'était passé était des choses extrêmement fortes en émotion, ici. Et donc, c'était important pour eux que Jésus fasse quelque part un débriefing, si j'ose dire, qu'il remette les choses à leur place et qu'il leur dise, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais avec vous. Il fallait que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans la gloire. Et puis la Bible dit, et il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc ils avaient besoin aussi de ce temps d'enseignement où Jésus remettait tout dans les bonnes perspectives. Mais aussi, on voit que pendant ce temps, Jésus n'était pas tout le temps avec eux. C'est pas? Il apparaissait, et puis après, il disparaissait. À un moment donné, il est apparu dans la chambre haute. La Bible dit que Thomas n'était pas là. Et puis, visiblement, il s'est passé 8 jours, et 8 jours après, il réapparaît dans la pièce, et Thomas était là. Donc, il était tantôt là et tantôt pas là. Pourquoi? Probablement, on pense, pour commencer à les habituer à son absence et leur apprendre ce que c'est. Jusque-là, ils ont vécu en voyant Jésus tout le temps. Ils ont vécu par la vue, on pourrait dire. Et là, ils ont besoin d'apprendre aussi ce que c'est que de vivre par la foi, et progressivement Jésus les on pourrait dire les prépare à son départ, donc à son absence physique, parce qu'ils ne vont plus pouvoir le voir. Et dans Matthieu, il dit « Je ne serai pas toujours avec vous » dans le sens physique du terme. Et donc, Jésus, Luc nous dit que, voilà, Jésus les conduit sur la montagne, le mont des Oliviers, et puis là, pendant qu'il est avec eux, l'évangile de Luc, pendant même qu'il les bénissait, eh bien, il s'en va. Et on n'a pas l'impression du tout que c'est quelque chose d'instantané, c'est quelque chose de progressif qui a une direction, parce que lorsque les hommes, parce qu'il dit deux hommes, il ne dit pas des anges, donc on va dire, que des hommes viennent, et ils disent quoi? Ils disent, pourquoi regardez-vous au ciel? Hein, c'est ce qu'il dit ainsi, regardez le verset, pourquoi avez-vous les regards fixés vers le ciel? Donc ils ont regardé dans la direction où les choses se sont passées. Si c'était une disparition abrupte, on fait comme ça, on cherche à droite, à gauche, mais on ne regarde pas dans une direction. Hein. Ici, donc il y a eu quelque chose qui a été progressif. Ils ont vu Jésus dans son corps de résurrection partir progressivement et puis être absorbé par la nuée. Et donc, c'est une ascension corporelle. Ce n'est pas quelque chose de spirituel qui s'est passé. Jésus a quitté son corps et puis... Non, le Christ ressuscité avec lequel ils ont mangé, ils ont bu, qu'ils ont touché après sa résurrection. Et Pierre, dans Actes chapitre 10, il insiste là-dessus. Il dit, nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection, hein, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de tangible, eh bien celui-là, c'est lui qu'ils ont vu monter au ciel. Et donc, c'est une résurrection ici. Une ascension corporelle, une ascension au ciel aussi. Hein. C'est l'endroit où Jésus est allé. Pendant qu'il les bénissait, dit Luc, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Les hommes parlent à ses disciples en leur disant, ce Jésus que vous avez vu allant au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc affirme que c'est au ciel. Ce n'est pas... le ciel, bien sûr, faut probablement des choses visibles, des étoiles, mais la Bible dit, présente le ciel comme la demeure de Dieu. C'est le lieu où Dieu a son trône. Donc Jésus se trouve quelque part, je crois, en un endroit, et il peut être, à mon avis, localisé. Nous ne savons pas où il se trouve, hein, mais il est à un endroit. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles on parle peu de l'ascension. On ne sait pas localiser les choses. Hein. Je parlais une fois avec un collègue de Christ et il me dit, bon, moi, la résurrection, moi, je suis un scientifique, moi, il me faut des choses. Et puis après, il me dit, et puis au milieu de la conversation, il me dit, mais Jésus, il est où actuellement? Je dis, mais la Bible dit qu'il est au ciel. Et là, j'ai eu tout de suite que, bon, c'est quelque chose, voilà, c'est pas concevable, hein. C'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas palpable, hein. Dire encore qu'on croit à la résurrection, des gens l'ont vu, mais dire qu'il est au ciel, on n'arrive pas à localiser les choses. Et c'est vrai que c'est difficile, mais en tout cas, la Bible dit que, et affirme qu'il est monté au ciel. Donc, quelque part, il y a une région, je ne sais pas comment il faut le dire, hein, où les choses sont visibles, parce qu'il y a des anges, il y a des gens qui chantent, il y a Jésus qui est présent corporellement, donc il y a un endroit où Christ est actuellement, où il est assis à la droite de Dieu. Donc, Jésus n'est plus présent physiquement sur la terre, parce qu'il est au ciel, et c'est important de souligner cela. L'apôtre Pierre dit en Actes 3, verset 21, il dit que Jésus-Christ, il parle de Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir, il dit comme ça, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche des prophètes. Et le mot recevoir peut être traduit aussi par contenir, rester ou demeurer. Hein. Donc Actes 3, 21, la semeur traduit ainsi, il dit en attendant... Il doit demeurer au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré. Et donc, physiquement, on pourrait dire, hein, Jésus-Christ est cantonné au ciel. C'est ça que la Bible dit ici. Il est avec son corps, il doit attendre ici le jour où l'univers sera restauré, comme Dieu l'a annoncé depuis les siècles par la bouche des saints. Prophète. Mais c'est une ascension aussi dans laquelle, je vais dire, c'est une ascension bénissante. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Hein. Mais Luc fait remarquer que pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux. Hein? Donc, pendant qu'il montait, on pourrait penser que Jésus a commencé à prononcer des paroles de bénédiction au peuple. Et pendant qu'il s'élevait, eh bien, il les bénissait. Et donc, il a quitté la terre en continuant à bénir ses disciples. Et qu'il continue, donc la bénédiction que les disciples ont reçue de sa part n'ont jamais cessé. Donc c'est une ascension dans laquelle Christ a continué à les bénir. Le départ ne signifie pas l'absence complète de toute chose. Non, Christ continue à bénir ses disciples. Mais c'est aussi et surtout une ascension dans la gloire. Regardez ce que dit Actes chapitre 1 ici, verset 9, il dit « Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. » Il ne s'agit pas de dire que Jésus a disparu dans les nuages. Vous savez, des fois vous regardez un avion qui décolle, il décolle, il monte et puis au bout d'un moment il rentre dans les nuages. Et puis là, il a disparu. Il est caché par les nuages. Ce n'est pas tant cette image-là que nous devons garder. Dans l'Écriture, la nuée est le symbole de quelque chose. Parce que si vous vous rappelez bien de cela, dans l'Ancien Testament, par exemple, la nuée, c'est le symbole de la présence et même de la gloire de Dieu. Je vous lis quelques versets comme cela. Nombre 14, verset 14 dit... Il savait que toi, Éternel, tu es au milieu de ce peuple, et que tu, c'est une prière de Moïse, quoi, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée, et la nuit dans une colonne de feu. Dans Exode 24, verset 16, il est dit « La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. » Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse « du milieu de la nuée ». C'est vraiment une expression, quelque chose qui symbolise la présence de Dieu. Souvenez-vous du temple de Salomon, au moment où les sacrificateurs sortent, la Bible dit « au moment où les sacrificateurs sortirent, du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire leur service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. » Donc cette nuée encore la symbolisait sa gloire et sa présence. Mais nous avons la même image dans le Nouveau Testament. Lors de la transfiguration de Jésus sur la montagne, la transfiguration, rappelez-vous ce qu'il est dit. Il est dit qu'il y a eu une nuée, qu'il y a une voix qui est sortie de la nuée et qui a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Écoutez-le ici. Donc la nuée indique certainement le fait que Jésus entre ici dans la présence de Dieu. Il monte... est élevé dans son corps, mais il entre dans la présence même de Dieu. Je crois que le terme nuée signifie cela. Et la traduction Darby tient compte de cela en disant, quand il traduit ce verset 9, il dit « Et ayant dit ces choses, il fut élevé de la terre, et comme il regardait, une nuée le reçut. » Il a été accueilli, c'est comme il a été accueilli par le Père, dans la gloire du Père. Il l'emporta de devant leurs yeux. Et certains pensent même que ce qui est écrit dans Daniel chapitre 7, la vision de Daniel chapitre 7, je vous lis les versets 13 et 14, où il est dit « Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées, des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. » On sait qui est appelé le Fils de l'homme dans l'Écriture. Il s'avança vers l'Ancien des Jours. Et c'est qui l'Ancien des Jours? C'est Dieu, le Père. Il s'avança vers l'Ancien des Jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples des nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Et c'est une vision, on pourrait dire, de l'autre côté, si on garde cette interprétation, ce n'est pas du ciel vers la terre, mais c'est quelqu'un qui arrive ici, hein, vers le Père. Probablement, cela, on peut penser que cela aussi montre un peu l'accueil du Fils de l'homme, l'accueil du Christ lors de son ascension. Écoutez cette belle confession de Paul quand il parle à Timothée. Il dit, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Parlons encore de cette ascension et de son association avec la gloire. Donc c'est une ascension glorieuse, une ascension dans la gloire. Mais quelle est l'importance? Est-ce que c'est important de penser à ces choses? Quoique oui. Qu'est-ce que l'ascension a d'important? Qu'est-ce que cela nous dit? D'abord, c'est l'introduction de l'humanité dans le ciel. Je ne sais pas si vous avez pensé à cela. Il dit que Jésus est entré dans le ciel avec l'humanité, avec une humanité glorifiée. Pour la première fois, la nature humaine pénètre dans la présence de Dieu. Adam avait été chassé de la présence de Dieu à cause du péché. Mais le second Adam, Jésus-Christ, revêtu la nature humaine et a pénétré, revêtu de cette nature humaine, jusque dans la présence même de Dieu. Certes, il est rentré avec un corps ressuscité, avec un corps glorifié, mais avec un corps humain. Et il a pour toujours ce corps humain. C'est quelque chose qui devait nous faire réfléchir. Lorsque l'apôtre Paul parle et qu'il parle du seul médiateur, il dit, il y a un seul médiateur, il dit Jésus-Christ, homme. Il ne dit pas Jésus-Christ qui a été un homme, mais Jésus-Christ qui est corps, homme, et qui est aujourd'hui le médiateur. Et beaucoup d'autres textes parlent de son retour, hein, parlant de quelque chose de visible, qu'on va le voir avec ses mains percées, son côté, etc. Donc il y a cette chose qui est extrêmement importante, hein, c'est la pénétration vraiment de l'homme, la nature humaine glorifiée ici dans le ciel. Donc l'ascension raconte vraiment l'histoire, on pourrait dire, d'un corps qui quitte la terre et qui pénètre jusque dans la présence même de Dieu. Et donc cela exprime, je crois, la merveilleuse destinée du corps des rachetés, qui un jour seront avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même. L'apôtre Paul, quand il parle aux Thessaloniciens, il dit que nous serons changés en un clin d'œil, en un instant, donc le corps sera transformé pour être glorieux, mais il dit que nous irons sur les nuées, dans les airs, à la rencontre de Jésus-Christ. Et nous serons pour toujours avec lui. De même que lui, il est parti, nous aussi nous partirons pour le rejoindre sur les nuées. Ça c'est, je pense que quand on pense à l'ascension, on pense aussi à cela. Puis on pense aussi, l'ascension est importante parce qu'elle est l'accomplissement, elle déclenche l'accomplissement des promesses. Après sa résurrection, Jésus avait donné à ses disciples l'ordre d'attendre et de rester à Jérusalem, comme nous avons lu dans Actes chapitre 1, verset 4, pour attendre ce que le Père avait promis. Et bien sûr, il s'agissait du Saint-Esprit qu'il devait envoyer. Et cette promesse s'est réalisée, bien sûr, à la Pentecôte. Nous verrons ça la semaine prochaine, mais cette promesse s'est réalisée à la Pentecôte. Et on pourrait dire que la Pentecôte est la conséquence de l'élévation et de l'ascension de Jésus-Christ, ici. Et Pierre dit dans Actes chapitre 2, verset 33, que Jésus a été élevé à la droite de Dieu et qu'il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et qu'il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez ici. Et donc, vous comprenez que sans ascension, il n'y a pas de venue du Saint-Esprit. C'est ce que, qui est sous-jacent même dans ce que l'on lit dans, dans le passage des Actes où il est dit, verset 4, comme il se trouvait, là il recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Et il dit dans Jean-Baptiste vous a baptisé d'eau, mais dans peu de jours vous serez baptisé du Saint-Esprit. Attendez, donc une fois qu'il sera élevé à la droite de Dieu, il enverra son esprit qui se répandra sur tous ceux qui sont à Jésus-Christ. L'accomplissement, donc, l'ascension donc, est importante en vertu du fait qu'elle déclenche, on pourrait dire, l'accomplissement des promesses ici de Dieu. Certes, Jésus a même dit, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer ce qui a été promis. Autrement dit, il dit que son ascension est nécessaire et importante pour qu'il puisse expérimenter quelque chose encore de plus profond dans la relation avec lui. Pas simplement qu'il soit physiquement avec eux, mais qu'il soit spirituellement en eux et éternellement. C'est ce que dit le passage. Il dit « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, si je pars, je vous l'enverrai. » Ici. Et d'autres passages, on voit comment il parle de cet autre Consolateur qui demeure éternellement, qui conduit dans la vérité, etc., etc. Éphésiens chapitre 4, verset 8, l'apôtre Paul parle à un moment donné de l'ascension et il dit ceci, regardez avec moi Éphésiens chapitre 4 et au verset Éphésiens 4. Et au verset 8, il dit, verset 7 déjà, « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il dit, « Étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » Donc il cite ici le psaume 68. Hein. Il dit, « Or, que signifie « il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre ?» Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté, par son ascension ici, au-dessus des cieux, afin de remplir toutes choses. Il y avait encore des choses. Alors bien sûr, à la croix, Jésus a crié « tout est accompli » pour l'aspect expiatoire de l'œuvre, mais il y avait encore d'autres éléments qui devaient, bien sûr, encore intervenir, comme la venue du Saint-Esprit. Cela n'était pas encore fait. La Bible dit même que le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que lui n'avait pas encore été glorifié, qu'il n'était pas monté. Mais Paul dit ici quelque chose, il dit, il est monté au-dessus des cieux afin de remplir toute chose, donc c'est important qu'il y soit. Et puis il ajoute, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue du ministère de l'édification du corps de Christ. Autrement dit, il dit ici que les dons que Dieu a fait à son Église sont la conséquence aussi de son ascension. Il est monté pour remplir ces choses-là et pour les accomplir ici. Et donc nous devons considérer cela aussi hein, comme les conséquences de son ascension. S'il n'était pas monté, ces choses n'auraient pas pu se faire. Et puis rappelez-vous ce que Jésus lui-même dit dans Jean chapitre 12 verset 32, quand j'aurai été élevé de la terre, qu'est-ce qu'il dit ? J'attirerai tous les hommes à moi. Il parlait bien sûr, dans Jean chapitre 3, il parle du fait d'être élevé, de même que Moïse a élevé le serpent, etc. Il y a le fait d'être élevé sur la croix, mais il y a aussi le fait d'être élevé dans la gloire, répandre son esprit par lequel ses disciples pourraient témoigner et ainsi attirer les hommes à lui. Donc ici, vous voyez, c'est important qu'il monte aussi. L'ascension est une chose importante parce que, ici, ainsi, le Seigneur peut attirer tous les hommes à lui. Et puis, elle est importante aussi parce que c'est l'intronisation de Christ dans son règne. Hein, je passe un peu vite là-dessus, mais le Seigneur règne actuellement. Peut-être que c'est un aspect qui nous échappe. Toutes les manifestations de son règne ne sont pas visibles ni effectives, mais le Seigneur Jésus règne, il est le roi des rois. Et l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et l'apôtre Pierre souligne que Christ qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumises. Il dit ça dans 1 Pierre chapitre 3, verset 22. Christ est allé au ciel. Il est à la droite de Dieu. Et depuis, dit-il, hein, comme cela, depuis qu'il est allé au ciel, eh bien les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Et puis, on sait, quand on lit l'Écriture, que de là aussi, eh bien, le Seigneur continue son ministère auprès de son peuple. Il a dit que je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrez avec moi. Donc l'ascension ici, c'est le départ de Christ pour cette préparation-là. Mais l'ascension aussi, c'est la place. Cela nous ramène au fait que Jésus-Christ intercède de cette position pour nous. L'apôtre Paul dit au Romains chapitre 8, versets 33 et 34, « Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ?» Il dit, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, donc là il fait référence à son élévation et son exaltation, et il intercède pour nous. Et nous avons donc, par le fait que Christ est monté au ciel et qu'il a cette position, accès maintenant, la Bible nous invite même à venir à lui, que nous avons un souverain sacrificateur près duquel nous pouvons venir librement. Donc l'ascension, oui, on pourrait dire encore beaucoup plus de choses, mais ça peut nous permettre de donner des pistes de réflexion. L'ascension est importante pour au moins ces raisons-là. Et puis troisièmement, je voudrais montrer quels sont les effets de l'ascension, au moins sur les disciples. Hein, qu'est-ce que ça a eu comme effet? Premièrement, je crois qu'ils ont pu attendre patiemment, l'attente patiente de Christ, pour les disciples, et puis pour les chrétiens, l'attente patiente du retour de Jésus-Christ. Ici. Les anges, pour penser aux disciples d'abord, lorsqu'on parle beaucoup de la résurrection, souvent pour parler du fait que les disciples ont eu un feu pour évangéliser, n'est-ce pas? On dit, c'est parce qu'ils ont vu Christ ressuscité qu'ils ont pu, voilà, sacrifier leur vie pour cela. Et donc cela leur a donné l'énergie. Et c'est vrai, mais j'ai envie de dire pas que, parce que lorsque Jésus était ressuscité, peu après sa résurrection, bon, la Bible dit qu'il est apparu avec Thomas, sans Thomas, Pierre l'a vu, etc. Mais rappelez-vous, à un moment donné, qu'est-ce que Pierre dit? Il dit « Allons à pêche ». On a l'impression qu'ils sont tombés dans une espèce de tristesse, de déprime un peu, ne savait pas quoi faire, et puis bon, Christ il est ressuscité, mais il est là, il n'est pas là, il apparaît, il disparaît. On a l'impression qu'il ne savait pas, et allez, hop, on reprend notre ancienne activité, on va à la pêche. Et puis, vous vous rappelez comment ça s'est passé, à la fin de la pêche, il rencontre Jésus rétablit Pierre, etc. Bon. Mais lorsque vous lisez les récits de l'ascension, il y a quelque chose qui est complètement différent. Jésus demande à ses disciples d'attendre. Et ils attendent. Hein? Ils attendent ce que Christ a promis. Hein? Il leur a maintenant parlé, il leur a expliqué les choses, mis les choses dans leur perspective, et ils ont attendu patiemment. Et les anges, lorsqu'ils apparaissent, les hommes, lorsqu'ils apparaissent, au verset 11, ils disent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à... Regardez au ciel, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Et peut-être que les disciples espéraient voir autre chose, je ne sais pas, ils ont vu monter et puis ils regardent et peut-être qu'ils s'attendent à une réapparition, je ne sais pas. Hein. Mais souvent on regarde là où la chose s'est passée en dernier pour Hein, comme, qu'est-ce qui vient après? Et après cela, ok? Et les anges disent, les hommes disent, arrêtez de regarder au ciel. Ce Jésus que vous avez vu, il viendra de la même manière. Et donc, ce que les anges disent ici, en substance, c'est quoi? C'est que ce que vous devez faire, ce n'est pas de chercher du regard, essayer de comprendre où il se trouve, mais vous devez l'attendre. Vous devez l'attendre parce qu'il va revenir. Okay. Et donc, l'ascension de Christ a pour effet de produire chez le croyant une attente patiente de son retour. Pas de la spéculation pour savoir où il se trouve. Tu me dis que Jésus est au ciel, mais c'est où le ciel? Hein? On a un univers en expansion, c'est quoi? C'est à l'est, à l'ouest? Où est-ce qu'il est? C'est de la spéculation. Et j'avais lu que avec Calvin et Augustin, disait que c'est une question inutile. Il dit qu'il suffit de croire que Jésus est au ciel. Ça nous suffit. Ce que les anges disent ici, c'est quasiment la même chose. Ils ne donnent pas d'explication sur où est-ce que ça se trouve, comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe au-delà de la nuée. Ils disent simplement, arrêtez de regarder là-bas et attendez sa venue. Parce que de la même manière, il est parti, eh bien, il va revenir aussi, ici. Et donc, les hommes vêtus de blanc exhortent les disciples plutôt à orienter leur regard vers le retour de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que doivent vivre les enfants de Dieu quand ils considèrent aussi l'ascension de Christ. Jésus disait en Matthieu chapitre 26, verset 64, il dit « De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées. » Il parlait déjà ici de son retour. Paul exprime son espérance en Dieu en parlant du retour de Jésus-Christ. Il dit « Nous, notre cité est dans les cieux. » Pourquoi peut-il dire « notre cité est dans les cieux » Parce que c'est là où Christ est monté. Et il dit « D'où notre cité est dans les cieux ?» D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Vous voyez, il parle encore du corps présent même, de Christ qui est un corps de gloire. Il dit que le chrétien sera transformé dans le même corps de gloire. Et il dit, puisqu'il est monté au ciel, nous aussi, c'est de là que nous l'attendons pour être aussi avec lui. Et donc l'ascension de Christ produit vraiment l'espérance d'une attente patiente pour le chrétien. Dans 1 Thessaloniciens, l'apôtre Paul parle de la conversion des Thessaloniciens. Il dit « Vous vous êtes détournés des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qui nous délivre de la colère à venir. » Donc l'ascension de Christ place vraiment le croyant dans cette attente de la réalisation, de la consommation de toutes choses. Car il est monté au ciel et on sait qu'il reviendra. Et ça permet de placer notre espérance dans les choses célestes. Parce que c'est là où Christ est. Si Christ est ressuscité, qu'il est dans les cieux, c'est là que doit être aussi notre espérance, dit l'Écriture. Ici. Et les parents, parfois, pleurent, vous savez, leurs enfants, lorsqu'ils partent, hein. Si vous avez des enfants qui doivent partir au loin, faire quelque chose, on est triste quand ils partent. Mais une fois qu'ils sont partis, on ne spécule pas sur où ils sont, qu'est-ce qu'ils font souvent. On espère vraiment leur retour. Et on attend avec impatience qu'ils reviennent, soit pour les vacances ou pour cela. Et je pense que c'est une image faible, mais c'est une image aussi de l'attitude dans laquelle est le croyant qui attend vraiment la réalisation de tous, la consommation de tout ce qui a été annoncé dans l'Écriture ici. Donc, je crois qu'un effet, c'est de produire une attente patiente, mais un autre effet, c'est de procurer une joie, de la joie et de l'adoration aussi. Hein. Si vous regardez Luc chapitre 24, lorsque Luc raconte l'ascension à la fin de son évangile, il dit, verset 50, Luc 24, verset 50, il dit ici, pendant qu'il le bénissait, Donc, il le conduisit à Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il fut enlevé au ciel. Pour eux, pour les disciples, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Il y a des personnes pour lesquelles, peut-être parfois, vous arrivez de vous réjouir quand elles partent. C'est parce que vous n'avez pas besoin, vous n'avez plus envie de supporter leur présence. N'est-ce pas? Mais en général, on ne se réjouit pas quand quelqu'un que l'on aime nous quitte et part. Et si vous lisez les évangiles, vous allez voir que ce n'était pas l'émotion première des disciples. Lorsque Jésus a commencé à dire qu'il allait partir, la Bible dit que la tristesse a envahi leur cœur, au point qu'ils ne pouvaient même poser à Jésus une question. Regardez ce qu'il dit dans Jean, je peux lire, mais vous n'êtes pas obligé de chercher, mais Jean chapitre 16, Jésus dit ceci, verset 4, il dit, je vous ai dit ces choses, il parle de ceux qui vont subir, etc. et tout ça, il dit, afin que lorsque l'heure est venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites, je ne vous ai pas parlé le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Et à un moment donné, Pierre dit, un peu avant le chapitre 13, il dit, mais où vas-tu? Hein, c'est ce qui a donné le grand titre du film « Covadis », c'est la même chose, hein, c'est la grande question de Pierre, mais où vas-tu, hein? Thomas dit la même chose, nous savons où tu vas. Ils étaient dans une profonde tristesse, comme vous l'êtes peut-être lorsque un enfant part. Je sais pas, mes soeurs m'ont raconté que lorsque je suis parti à l'âge de 18 ans pour faire des études à Paris, enfin à Bordeaux, eh bien, ma mère s'est assise presque tous les jours pendant plusieurs fois sur mon lit et puis elle pleurait, simplement. C'était quelque chose de difficile et de douloureux de voir son enfant partir, même si c'est pour faire des études. Alors imaginez quand c'est pour la guerre ou le service militaire ou autre chose de ce genre. La séparation est toujours un déchirement. Ça, c'était quand Jésus annonce son départ. Mais lorsqu'il part véritablement, ils sont, la Bible dit, remplis de joie. Non pas parce qu'ils sont contents qu'ils aient parti, qu'ils n'ont plus à supporter, pas du tout. C'est parce qu'entre les deux, il s'est passé des choses. Dans les 40 jours, ils ont compris des choses après la résurrection. Ils ont compris que Jésus va monter au ciel, qu'il va être, il va être assis à la droite de Dieu, qu'il va régner, qu'il va revenir, qu'il va leur envoyer le Saint-Esprit, qu'ils seront ses témoins. Ils ont compris beaucoup de choses, beaucoup plus de choses qu'auparavant. Et quand Jésus ils savent que ça n'est pas la fin des choses, mais c'est la continuation et même l'amplification de la relation qu'ils peuvent avoir avec lui. Maintenant, ils vont être avec lui par l'esprit. Et où qu'ils soient, et même s'ils sont séparés les uns des autres, ils seront dans cette communion avec lui. Et la Bible dit qu'ils partent en étant vraiment joyeux ici. Il me semble que c'est dans Jean chapitre 17 où Jésus parle, il associe son départ, le fait qu'il s'en aille et demande au Père afin que les disciples aient aussi cette joie avec lui ici. Donc on peut dire que même lors de l'ascension, donc Luc souligne vraiment ici hein, cette grande joie et aussi cette adoration, parce qu'il dit, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Donc l'ascension de Jésus a finalement produit pour les disciples la joie et ils ont pu l'adorer véritablement. Et puis aussi, je voudrais terminer avec cela, cela produit un témoignage puissant parce que ils s'en retournent et puis dès lors, ils sont des témoins fidèles. Ils attendent, et une fois qu'ils reçoivent, bien sûr, le Saint-Esprit, eh bien, la Bible dit qu'ils sont des témoins, comment on dit, on pourrait dire, on peut pas les arrêter, hein. C'est devenu, sont des rouleaux compresseurs qui ont envahi Jérusalem, et à tel point que les pharisiens disent, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et, ils auraient pu dire, mais attends, tu n'as encore rien vu, parce qu'on va remplir le monde. Hein, dans notre enseignement, comme Jésus l'a commandé. Et cela parce que Christ est monté, il est ressuscité, il est monté au ciel, qu'il a envoyé comme promis le Saint-Esprit, qui leur a permis d'être des témoins puissant. Et c'est ce qu'il dit dans le passage des Actes. Il dit, vous recevrez une puissance, et le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins dans toute la Judée. Alors, je voudrais terminer, chers frères et sœurs, avec quelques mots de conclusion. La société aspire, n'est-ce pas, d'une certaine manière, à l'ascension. Hein? On parle d'ascenseur social. Vous avez déjà entendu cette expression. C'est-à-dire, comment faire pour sortir les gens de la misère dans laquelle ils se trouvent, et puis avoir des conditions de vie peut-être bien, bien meilleures. Et on aspire toujours à de grandes choses. On aspire à faire mieux que nos parents, à avoir un meilleur poste, un meilleur travail, à gagner plus d'argent. On aspire à parfois une plus grande place, n'est-ce pas, dans la société. Mais permettez-moi de vous dire ici que l'ascension de Christ nous montre que l'Évangile promet la plus grande ascension possible à l'homme, à celui qui place sa confiance en Jésus-Christ. Celle qui conduit non pas jusque dans les hauteurs des grandes banques internationales ou dans les hauteurs des gouvernements du monde, mais celle qui conduit jusque dans la présence même de Jésus-Christ. Et cela, nous le savons parce que Christ est ressuscité corporellement et qu'avec ce corps glorifié, il est monté dans la présence de Dieu. Il demeure pour toujours là et qu'il est l'avocat de ceux qui ont placé leur confiance en lui. Et que la Bible dit qu'un jour, il reviendra, je vous le lis ici, il dit, il reviendra sur les nuées et tout œil le verra. Et l'apôtre Paul dit que ceux qui l'ont aimé, eh bien, ils vont partir à sa rencontre sur les airs de manière à être pour toujours avec le Seigneur. Ceux qui auront placé leur confiance en Jésus connaîtront l'ascension véritable qui les conduira jusque dans la présence même de Dieu. Quelle chose extraordinaire! Le lieu où il n'y aura plus ni pleurs, ni grincement de dents, ni maladie, mais où tout sera joie, bonheur et félicité. Mais la Bible dit aussi que pour ceux qui n'auront pas mis leur confiance en Jésus-Christ, Jésus-Christ reviendra. Et je vous rappelle que dans ce que nous avons lu tout à l'heure concernant le credo, il est question qu'il revient, qu'il est monté au ciel, mais qu'il revient pour juger les méchants. Écoutez ce que Pierre dit dans Actes chapitre 10, je vais vous lire ces versets, il dit ceci. Actes chapitre 10, l'apôtre Pierre dit, quand il parle avec Corneille, il dit, il parle de la résurrection de Jésus-Christ, et il dit, nous sommes témoins de tout ce que Jésus a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, verset 39, et ils l'ont tué en le pendant au bois, mais Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné, pas dit nous a conseillé, il nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Et un jour, il reviendra pour exercer ce jugement. De la même manière qu'il est monté au ciel, de cette même manière, il reviendra. Et il exercera ce jugement. Il reviendra pour prendre ceux qui lui appartiennent. Mais la Bible dit, et je vous lis ce verset, il reviendra aussi d'une manière terrible, parce qu'il dit en 2 Thessaloniciens, il dit que le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Donc, que nous dit l'ascension ici? Nous sommes un enfant de Dieu et nous dit que nous avons à attendre patiemment, à continuer d'espérer, à travailler, à œuvrer, à témoigner parce que notre Seigneur est au ciel. Il œuvre, il nous garde, il est notre intercesseur. Quand nous péchons, nous pouvons venir à lui. Mais si nous ne le connaissons pas, il nous dit que celui qui est monté, n'oublions pas qu'il va revenir. C'est un fait historique qu'il est monté au ciel. De même que sa mort et sa résurrection sont des faits historiques, l'ascension corporelle de Christ est un fait historique. Il y a eu des témoins. La Bible dit qu'ils regardaient, qu'ils l'ont vu. Eh bien, les deux hommes ont dit qu'il reviendra de la même manière. Mais la Bible dit qu'il reviendra aussi pour juger ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc, le temps dans lequel nous vivons est un temps dans lequel Dieu use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et l'ascension de Jésus-Christ nous dit cela. Elle nous dit cela, qu'il est au ciel, corporellement vivant, et que c'est lui, l'homme que Dieu a choisi, selon Actes chapitre 17, versets 30 et 31, et par lequel il va juger le monde. Et donc, je vous en supplie, si vous ne le connaissez pas, eh bien, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et c'est ce message aussi que nous dit l'ascension. Christ est monté, il reviendra un jour pour ceux qu'il aime, comme leur sauveur. Mais il reviendra aussi comme le juge de ceux qui n'auront pas placé leur confiance en lui. Que ces paroles, par l'Esprit de Dieu, travaillent nos cœurs et nous conduisent à aimer Christ, à aimer tous les aspects de son œuvre. Ne pas nous arrêter simplement à la résurrection, mais considérez tout, hein, aussi l'ascension, son exaltation, le fait qu'il est assis à la droite de Dieu et le fait qu'il va revenir ici et que nous nous réjouissons de ces choses, comme les disciples, que nous puissions repartir en adorant Dieu et en ayant le cœur réjoui et en témoignant avec puissance que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Prions. Nous te remercions.